السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، la semaine dernière on a vu les préparatifs de la Mecque pour la bataille de Uhud. Et on a expliqué que les Mécois, cette fois, ils se sont préparés et organisés. Ça fait un an qu'ils préparent la bataille de Uhud, parce qu'ils ont, ils sont revenus de Badr avec une défaite cuisante, en ayant perdu la plupart des chefs de la ville, même on peut dire tous les chefs de la ville. Et donc, les familles de ces chefs et la population de la Mecque, de manière générale, préparent la vengeance depuis un an. Ça se traduit par quoi ? Ça se traduit par le fait que, comme on l'avait dit, il y a des entraînements, en particulier dans les combats que les Quraysh ne savaient pas manier, comme la lance. La lance, c'était quelque chose qui était... Le combat aux lances, c'était quelque chose qui était plus... une spécialité des Abyssiniens, l'Éthiopie actuelle. Donc ils s'entraînent pendant toute l'année au combat aux lances. On a aussi des émissaires, des diplomates qui vont dans les tribus pour convaincre les tribus de se rallier aux Quraysh. On a des poètes aussi qui vont galvaniser et inciter les gens à prendre part à cette vengeance. On avait parlé d'Abu Azza, ce poète qui avait été fait prisonnier à Badr et que le professeur Hassan avait libéré en échange du fait qu'il ne s'associerait plus jamais à quelconque menace contre les musulmans. Et pourtant, il va finalement rompre son engagement et il va repartir utiliser son éloquence, ses rimes et ses poèmes pour inciter les gens à se venger des musulmans. Et on avait dit que les Quraysh prennent la route vers Badr avec 3000 hommes. On avait aussi dit qu'ils prenaient les femmes avec eux. Il y avait un groupe de femmes qui partaient, en particulier les femmes des notables. Et ils sont 3000 combattants. Mais les deux tiers de ces 3000, donc 2000 combattants, sont ce qu'on appelle des Ahabish. Et on avait terminé la fois dernière sur la question « Qu'est-ce que l'Ahabish ?» Et on avait dit, pourquoi on s'était arrêté à ça ? On avait dit que l'oncle du professeur Asselam qui vit à la Mecque et qui cache son islam à cette époque-là, a envoyé une lettre secrète avec un messager au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, où il lui donne les détails de l'armée et le fait que cette armée est sortie. Et nous, on s'est arrêté là. Et on a dit que dans les détails qu'il lui donne, c'est qu'il lui explique que la majorité de ceux qui constituent cette armée sont des Ahabish. Et on s'était posé la question, même si on n'y avait pas répondu, on s'était posé la question, quel effet cette lettre a pu faire ou a dû faire sur le professeur Hassan, parce que même s'il est prophète, il reste d'abord et avant tout un homme, un être humain, qui est éprouvé, qui éprouve les joies, qui éprouve les tristesses, qui peut être choqué par telle chose ou telle chose, surpris par telle chose ou telle chose. Il éprouve des émotions humaines. Souvent, on a tendance à oublier la dimension humaine du prophète Mohammed. Et le prophète, ça reste un homme comme les autres, comme il comme le Coran le dit régulièrement dans plusieurs versets. Et nous, on a dit que l'effet de cette information aussi, c'est une information importante et capitale. Quand on lui dit au professeur sallam, les deux tiers de cette armée sont composés par les Ahabish. Qui sont les Ahabish? Alors d'abord, ce sont des combattants très aguerris. Des gens qui ont l'habitude de se battre, qui s'entraînent tous les jours au combat. Et ils composent les 2000 parmi les 3000 de cette armée. Et ils ont un pacte ancestral avec les Mekkois, avec les Quraysh. Leur pacte, leur alliance, elle a été scellée des générations auparavant. Les Ahabish, pourquoi d'abord on les appelle Ahabish? Quand on essaie de comprendre le nom d'un groupe de personnes en arabe, on reprend la racine du mot. Certains savants disent probablement qu'ils s'appelaient l'Ahabish parce que l'Ahabish, ça ressemble à l'Habasha, c'est-à-dire l'Abyssinie, l'Éthiopie. Et donc les gens d'Abyssinie sont des gens noirs de peau qu'on appelait l'Ahbash. Et donc ils disent probablement qu'on les a appelés l'Ahabish parce que la plupart de ceux qui composaient l'Ahabish, c'était des esclaves venus d'Abyssinie, qu'on avait entraînés au combat et qu'ensuite on utilisait dans les moments difficiles pour les Mekwa, comme la bataille de Uhud. Je rappelle qu'à Badr, on n'a pas fait appel à eux. Mais ça, c'est une interprétation qui a été donnée par certains savants, mais elle est rejetée par la majorité des savants. Pourquoi? Parce qu'on a des textes, des poèmes qui datent même d'avant l'islam, qui montrent que la plupart des gens qui composent l'Ahabish sont des Arabes, des tribus arabes connues, qui vivent à la Mecque et autour de la Mecque. Il peut y avoir dedans des esclaves ou des anciens esclaves, mais la majorité, ce sont des gens de tribus arabes de l'époque. Donc, c'est une interprétation que la plupart des historiens mettent de côté. Deuxième supposition, c'est que quand on vérifie dans le dictionnaire, dans les encyclopédies des grands linguistes, qu'est-ce que la racine « ha ba sha » veut dire, on se rend compte que le mot « tahbish » est utilisé pour le fait de rassembler, de réunir. « Tahbish » c'est « tajmi'a », le fait de rassembler. « Tahabush » c'est « tajamu'a », le fait de rassembler les gens, de les réunir. Et donc, ils disent, on les a appelés l'Ahabish parce que ça, à l'origine, c'est un pacte entre ces gens-là et les gens de la Mecque pour se défendre mutuellement. Donc, comme ils se sont réunis, rassemblés pour un pacte, on a appelé ces gens-là l'Ahabish dans le sens ceux qui se sont réunis, ceux qui se sont rassemblés, qui se sont alliés. Puisqu'en arabe, Tahabasha, ça veut dire s'allier ou se réunir avec quelqu'un. Sauf que certains linguistes disent en réalité, justement le mot tahabush, on l'utilise dans le sens rassembler, parce qu'on l'a pris de ce pacte, et pas l'inverse. Je vous ai dit, certains linguistes disent on l'a appelé ce pacte l'ahabish, parce qu'en arabe ça veut dire se réunir. Il y en a, ils disent non, c'est l'inverse. On a utilisé ce mot pour désigner le fait de se réunir parce qu'il y a des gens qu'on appelait l'Ahabish qui se sont réunis avec les Mekkois. Aïwa. Et on a une troisième interprétation qui semble être la plus probable, wallahu a'lam. C'est qu'en fait, au sud de la Mecque, pas loin de la Mecque, à une dizaine de kilomètres au sud de la Mecque, il y a une montagne qui s'appelle Hubaysh. Qui s'appelle comment? Hubaysh. Et on sait que le pacte qui a été scellé entre l'Ahabish et les Mekwa, ils se sont réunis à cette montagne Hubaysh. Et donc on les a appelés Al-Ahabish en référence à l'endroit où ils se sont réunis pour sceller ce pacte, le mont Hubaysh. Et c'est probablement la version la plus la plus proche de la réalité, Wallahu a'lam. Maintenant, dans quel contexte elle s'est fait ce pacte? Je vous ai dit, c'est bien avant. Donc, pour qu'on comprenne que quand la bataille de Uhud va avoir lieu, les Arabes de la Mecque, ils disent, on va faire appel aux Ahabish. Et quel effet ça fait sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam de voir que 2000 Ahabish, c'est pas n'importe qui les Ahabish, composent les deux tiers de cette armée. On a besoin de savoir comment s'est composé ce pacte. Alors d'abord, il faut revenir à ce qu'on appelle le nasab, les ascendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa lignée, pour comprendre où ça a été scellé, ce pacte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ibn, fils de Abdullah, ibn Abdel Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murrah, ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر غتني النضر سكي c'est celui qu'on surnommait en vérité Quraysh. Toutes les tribus Quraysh descendent de cet homme qui s'appelle Nadr. Ibn al-Nadr, ibn Khuzaima, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, Ibn Ma'd, Ibn Adnan. Ça, c'est la lignée dont on est sûr. Et ensuite, ça remonte jusqu'à Ismaïl, alayhi salam. Mais les noms qui sont donnés par la suite, au-dessus jusqu'à Ismaïl, ce n'est pas vérifiable et authentifiable. En tout cas, ce qu'on vient de donner là, donc on est remonté jusqu'à plusieurs générations, ça, c'est authentique. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, Ibn Abdel Muttalib, Ibn Abdillah, ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب قصي ابن كلاب retenez-le aussi parce que c'est là que va se faire le pacte des Ahabish. Ensuite, au-dessus de قصي ابن كلاب, il y a مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. Ça va, je vous ai pas encore embrouillé. Si vous êtes déjà embrouillé là, la suite elle va pas être plus simple que ce que je viens de dire. Qusay ibn Kilab, c'est un des ancêtres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, on va redire la lignée, mais on va s'arrêter à Qusay. Donc pour qu'on compte le nombre d'ancêtres qu'on a. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, fils de Abdillah ibn Abd al-Muttalib, père, grand-père, Ibn Hashim, arrière-grand-père, Ibn Abdi Manaf, arrière-arrière-grand-père. Donc on a dit Ibn Abdillah, le père, yeah, le grand-père, Ibn Abdel Muttalib, Ibn Hashim, l'arrière-grand-père, Ibn Abdi Manaf, arrière-arrière-grand-père, Ibn Qusay Ibn Kilab. Qusay Ibn Kilab, c'est le cinquième. Le cinquième ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qusay ibn Kilab s'appelait Qusay, mais en vérité on l'a surnommé Qusay, c'est pas son vrai nom. Son vrai nom c'était Zayd ibn Kilab, Zayd fils de Kilab. Son père Kilab est mort alors qu'il était très jeune. Son fils Qusay ibn Kilab, Zayd ibn Kilab était très jeune et son père est mort. Kilab est mort alors qu'il était très jeune. Alors que son fils était très jeune. Et donc sa mère, finalement, elle a décidé de changer de coin. Elle est partie, elle s'est remariée avec un autre homme et elle est partie, ils sont partis s'installer du côté du Sham, la Syrie Jordanie actuelle. Ils sont partis s'installer là-bas. Et donc, celui qu'on surnomme Qusay, et son vrai nom c'était Zayd ibn Kilab, Qusay ibn Kilab, il a grandi là-bas sans connaître sa véritable origine. Jusqu'à ce qu'un jour, alors qu'il était un jeune homme, il s'est disputé avec quelqu'un de là-bas. Comme deux jeunes peuvent se disputer. Pas pour le foot, pas pour la Coupe du Monde, ça n'existait pas encore à l'époque. Il y avait d'autres choses qui faisaient devenir un peu fous les gens, mais différente. Naam. J'espère qu'il n'y a pas trop de tables qui ont cassé aujourd'hui et pas trop de chaises qui se sont retournées à la maison. Ala kulli hal. Donc ils se sont disputés et la personne en face lui a dit: tu n'as même pas d'ancêtre connu, tu n'es rien. Yani, il s'est moqué de lui, il l'a humilié comme ça, dans ce sens-là. Il est retourné voir sa mère et il était vraiment attristé par ce qu'il venait d'entendre. Et sa mère, elle lui a dit: lève ta tête et sois fier. Tu es mieux que lui. Tu es supérieur à lui. Et lui, il est de telle tribu. Alors que toi, tu es le fils de Kilab. Le fils de Kilab, fils de Murra, fils de... Et elle lui remonte jusqu'au prophète Ismaël, le prophète Ibrahim, alayhim assalam. Tu n'es pas n'importe qui. Et on est juste venu s'installer ici. Notre origine, c'est que nous sommes les gens, à la base, qui devons nous occuper de la Kaaba et de la Mecque, qui avons autorité sur la Kaaba, sur la Mecque. Notre famille, notre lignée a l'autorité sur la Mecque. Mais il y a eu des conflits et on a été rejetés, on nous a pris le pouvoir de la Mecque. Et là, on est obligé de faire une parenthèse pour comprendre. C'est qu'en fait, quand le prophète Ismaïl, alayhi salam, avec l'aide de son père, le prophète Ibrahim, ils ont construit la Kaaba. Au tout début, le prophète Ibrahim, il a abandonné son épouse Hajar et son fils Ismaïl dans une vallée que le Coran appelle à ce moment-là « Wadin ghayri dhi zar'a », une vallée sans aucune végétation, où rien ne pousse, une vallée aride. C'était l'épreuve qu'Allah Azza wa Jalla a donné à Ibrahim: abandonne-la et pars. Abandonne ton épouse avec un bébé qui vient de naître sans rien dire et sans leur fournir aucun soutien ni aucune aide, et part. Ah, c'est pas n'importe quoi comme épreuve. Et Hajar et son fils Ismaïl, alors qu'il était qu'un nourrisson, il était abandonné au plein milieu du désert, la chaleur du désert, pas d'eau, pas de nourriture. Et subhanallah, Allah Azza wa Jal a fait jaillir l'eau de Zamzam. La première chose qui est arrivée dans cet endroit, c'est que Allah Azza wa Jal a fait jaillir l'eau de Zamzam. Une eau intarissable. Une eau qui, depuis ce moment-là, depuis le moment où Allah Azza wa Jal l'a fait jaillir, jusqu'à aujourd'hui, au plein milieu du désert de la Mecque, de l'Arabie Saoudite, cette eau continue à jaillir. Et chaque année, chaque mois, les gens qui vont à Umrah, les pèlerins qui vont pour faire le Hajj, ils boivent sur place de l'eau de Zamzam. Et ils prennent avec eux chacun les millions de pèlerins. Chaque mois, des millions de pèlerins, ils prennent avec eux un minimum de 5 litres, sans ce qu'ils ont bu sur place. Et jamais on a dit: ah bah, c'est la sécheresse, et pourtant là-bas c'est toujours la sécheresse, on est au milieu du désert. Il fait des 50 degrés, des 52 degrés, jamais on a dit: il n'y a plus d'eau là. Ajib. Al-Muhim, il y avait une caravane qui cherchait un endroit où vivre. Et ils ont découvert Hajar avec son nourrisson et cette eau qu'elle s'était appropriée. Mais elle ne pouvait pas vivre seule avec son nourrisson. Donc cette tribu qui venait du Yémen et qui cherchait un endroit où ils pourraient vivre paisiblement avec de l'eau, chercher l'eau à l'époque. Là où il y avait l'eau, on s'arrêtait. Ils ont demandé à pouvoir avoir accès à cette eau. Hajar, elle a conclu un pacte avec eux, c'est la tribu des Bani Jurhum. La tribu arabe des Bani Jurhum. Elle a conclu un pacte avec eux, elle leur a dit: j'accepte de vous laisser libre accès à l'eau à condition que vous restiez ici. Je suis une femme seule avec mon nourrisson. Je ne sais pas si mon mari va revenir un jour ou pas. C'est mon épreuve. Et je dois patienter, mais j'ai besoin, pour faire grandir mon enfant, de gens qui soient autour de lui, etc. Et ils ont accepté de camper là, et en plus, il y avait l'eau. Donc, il y avait ce qu'il fallait pour faire pousser des choses et pour nourrir le bétail, etc. Et donc, Ismaïl, alayhi salam, il a grandi, il a été éduqué d'une certaine manière par les Jurhum, et il s'est marié à une femme des Bani Jurhum. Donc il a adopté leurs us et leurs coutumes. Et par la suite, c'est la descendance de Ismaïl alayhi salam. Donc après ça, Ibrahim alayhi salam est revenu, il a construit la Kaaba avec Ismaïl, ou plutôt reconstruit, puisque des textes disent qu'en réalité la Kaaba avait été construite bien avant et que ensuite elle a été détruite, etc. Et que Ibrahim, en réalité, même lui, il n'a fait que la reconstruire. À la Kulihal, ils ont construit la Kaaba et ensuite la lignée Ismaïl, après la mort d'Ismaïl alayhi salam, c'est sa lignée qui avait autorité à la Mecque et qui s'occupait, qui était au service de la Kaaba. C'était un honneur d'hériter d'être au service de la Kaaba. C'est quoi être au service de la Kaaba? C'est ce qu'on appelle Aqdul Liwa, qui décide, qui garde l'étendard. L'étendard, c'est le drapeau qu'on prend et qu'on brandit pendant les temps de guerre. Donc, Aqdul Liwa, c'est qui gère la guerre à la Mecque. Il y a aussi ce qu'on appelle As-Siqaya, qui s'occupe de l'eau de Zamzam et d'abreuver les pèlerins. Il y a Al-Rifada. Al-Rifada, c'est qui s'occupe de nourrir les pèlerins. On offrait l'hospitalité aux pèlerins, on leur donnait à manger. Il y a Al-Hijaba. Al-Hijaba, c'est qui s'occupe de nettoyer la Kaaba, d'ouvrir la porte, qui conserve les clés de la Kaaba, de mettre l'habit sur la Kaaba, d'habiller la Kaaba. Et il y a Ad-Dar, qui s'occupe de Ad-Dar. Mais Ad-Dar, ça va venir plus tard. Ce n'était pas encore à l'époque, juste après Ismaïl, il n'y avait que ce qu'on avait cité. Il y avait qui s'occupe d'abreuver, de nourrir et de prendre soin de la Kaaba, d'ouvrir la porte, etc. Qusay ibn Kilab, donc les Bani Jurhum, c'est eux qui se sont occupés de ça, de père en fils. Et il y avait Kinana, je vous ai dit, Kinana, c'est un des ancêtres du professeur Salim. Et tout à l'heure, je vous ai dit, rappelez-vous de An-Nadr ibn Kinana. Et Nadr, c'est qui? C'est lui qu'on appelait Quraysh. Nadr ibn Kinana, c'est eux qui ont. C'est Nadr ibn Kinana qui a hérité d'être au service de la Kaaba. Et donc ses frères, et en particulier Bakr ibn Kinana, ils ont été marginalisés. Donc, les enfants de Bakr ibn Kinana, ça ne leur a jamais plu. Ils ont toujours voulu reprendre l'autorité à la Kaaba et l'honneur d'être au service de la Kaaba. À un tel point qu'ils se sont fait la guerre. Les Bakr ibn Kinana, ils se sont alliés avec la tribu des Khuza'a pour faire la guerre à qui ? Aux Bani Jurhum, ou à ceux qu'on appelle aujourd'hui les Quraysh. Et ils ont réussi à prendre le pouvoir à la Mecque, et ils ont rejeté les Bani Jurhum, à un tel point qu'ils ont dû vivre à l'extérieur de la Mecque, et si l'un d'entre eux osait venir à la Mecque pour le pèlerinage, ou même venir juste en visite, et qu'on le reconnaissait qu'il était parmi les deux, qui venait de la tribu des Bani Jurhum, les Bani Kinana, les Bani Bakr ibn Kinana, et les Khuza'a le tuaient, ils l'exécutaient. Donc, je reviens à Qusay ibn Kilab. Pourquoi il a été quand il s'est disputé, qu'on l'a humilié, sa mère, elle lui a dit, tu n'es pas n'importe qui, elle lui a raconté son histoire. Et elle a dit, en vérité, si on vit ici, c'est parce qu'on a été mis à l'extérieur de la Mecque, alors qu'en vérité, c'était nous qui avions autorité à la Mecque. Et là, depuis ce jour-là, il a eu comme seule ambition de reprendre la Mecque. Mais au début, il ne s'est pas dit qu'il allait reprendre la Mecque par les armes. Donc il est revenu, il s'est installé autour de la Mecque, il a commencé à faire connaissance avec les gens, et il s'est marié. Par le mariage, il a voulu reprendre la Mecque. Avec une femme de Khuza'a, ceux qui avaient autorité à la Mecque. Il s'est marié auprès d'un notable de Khuza'a, il a gagné son cœur, et le cœur de la fille, probablement en passant. Nous, aujourd'hui, on gagne juste le cœur de la fille, ça suffit. Avant, ils essaient de gagner le cœur aussi, surtout des parents. La fille, vous voyez ça plus tard. Son cœur, il viendra tout naturellement. Et s'il ne vient pas, l'ahlaf a jiji. Mohim, ils avaient besoin des parents. El Mohim, il s'est marié avec cette femme. Et subhanallah, il a eu beaucoup de garçons. Il a eu Abdou Manaf, l'ancêtre du professeur, il a eu Abdou Dar, l'arrière-arrière-arrière-grand-oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a eu d'autres garçons. Et l'homme qui avait hérité de... Il s'est marié auprès de l'homme qui avait hérité des services, d'être au service de la Kaaba. Et avant de mourir, il a laissé comme testament que celui qui devait hériter d'avoir l'honneur d'être au service de la Mecque et de la Kaaba, ce n'est pas son fils, mais c'est son gendre, Qusay ibn Kilab. Et pourquoi il avait fait ce choix ? Parce que ses fils s'étaient mariés, ils avaient des enfants, mais aucun n'avait de fille. Et on sait que l'héritage chez les Arabes à l'époque se faisait surtout de père en fils. C'était important d'avoir un fils. Alors que son gendre, donc sa fille, ils avaient beaucoup de garçons. Donc il a dit, c'est à Qusay ibn Kilab que reviendra l'héritage. Et donc évidemment, ça n'a pas plu aux autres au moment de la mort de leur père. Et donc ils se sont fait la guerre entre les descendants de Qusay ibn Kilab, donc l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et les autres. Et Al-Muhim, ils se sont fait la guerre, mais la guerre, elle les a épuisés sans que quelqu'un ait le dessus sur l'autre. La guerre, elle a duré longtemps, elle a fait beaucoup de morts. Et donc au bout d'un moment, comme ils étaient épuisés par cette guerre, ils ont accepté de remettre leur sort auprès d'un homme, d'un sage, d'un doyen de Mecca qui s'appelle Ya'mur ibn Auf. Ils ont demandé à cet homme, à ce vieil homme sage, voilà notre histoire, voilà pourquoi on fait la guerre, voilà comment ça s'est passé, etc. À toi de décider de notre sort et nous promettons que nous nous rangerons du côté de ta décision, quelle que soit la personne pour laquelle tu remettras l'honneur d'être au service de la Kaaba. Et cet homme, Ya'mur ibn Auf, a décidé de donner l'autorité de la Mecque et d'être au service de la Kaaba à Qusay ibn Kilab, l'ancêtre du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi lui ? Parce qu'il a dit, ça lui revient de droit. Celui qui avait hérité de ça, avant sa mort, il a fait un testament devant témoin, donc c'est à lui que ça revient. Donc c'est lui qui doit avoir l'autorité. Et les autres, ils ont accepté, même si à l'intérieur d'eux, ça bouillonnait. Et ça bouillonnait tellement que, par la suite, les guerres, elles ont continué de temps en temps. Ils venaient faire des guerres où ils tuaient des gens par surprise, etc. Et donc les Quraysh, qui sont les descendants de Qusay ibn Kilab, ont été affaiblis par ces attaques surprises, par ces guerres. À un tel point qu'on raconte, et c'est là où on en vient aux Ahabish, et au fameux pacte des Ahabish. J'ai dû faire tout ce contexte. Vous rappelez tout ça pour vous mettre dans le contexte d'où vient l'Ahabish. C'est qu'en fait, un homme de la tribu d'Ibn al-Harith, il est venu avec des marchandises qu'il allait vendre à la Mecque. Et quand il est arrivé à Mecca, il a vendu ses marchandises, et quand il est reparti chez lui, juste avant de sortir à la Mecque, il n'avait plus d'eau, donc il a demandé à... Il s'est arrêté à une maison pour demander de l'eau, pour retourner chez lui. Et c'est une vieille dame qui est sortie, une dame de la tribu des Bani Khuzaïma, à Mecca, qui est sortie et qui s'est mise à lui verser de l'eau, etc. Et il a vu, c'était une vieille, elle avait du mal à le faire, donc il lui a dit, tu as pas d'enfants, tu n'as pas de petits-enfants pour que tu me les envoies faire ça à ta place. J'ai honte de voir que c'est toi qui me fais ça. Et elle va lui dire une parole qui reste célèbre, elle va lui dire, Tarakatna banu bakrin na'ama. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire les banu bakr, donc leurs ennemis qui les attaquent à chaque fois pour reprendre l'autorité de la Mecque. Elle lui dit, les banu bakr, ils nous ont laissé na'ama, tels des autruches. Allez, tels des autruches. L'autruche, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle met sa tête dans le trou, dans la terre. Hein, comme on dit, les gens qui font comme si de rien, ils ne veulent pas entendre parler des problèmes, ils font la politique de l'autruche. Il n'y a rien entendu, moi je ne veux pas savoir. Il fait un déni. Il y a des gens comme ça. Ils pensent qu'en faisant un déni, ça élimine les problèmes. Ah, le problème, il est là. Tu t'en occupes pas. Il va peut-être même grossir et jusqu'à ce qu'il t'éclate au visage. Mais il y en a, ils pensent, faisons comme si de rien, ça va passer. Jusqu'à ce que ça... C'est vrai que quelquefois, ça fonctionne. Non. Mais ce n'est pas parce que ça fonctionne, de temps en temps que ça fonctionne à tous les coups. Pour certains problèmes, et ça c'est la personne qui est sage et intelligente, il doit faire comme si de rien n'était, parce qu'il sait que ça c'est un genre de problème, ça va passer, en ne disant rien. Et au contraire, en s'ingérant et en parlant de ce problème, ça ne va faire que l'augmenter. Ça c'est la personne sage, il sait quand est-ce qu'il doit faire l'autruche et quand est-ce qu'il doit s'ingérer. Naam. Et elle dit, Banu Bakrin, tarakatna Banu Bakrin na'ama. Si les Banu Bakrin nous ont laissé comme ça, comme des autruches, on ne sait plus quoi faire. Et il a eu de la peine pour cette femme. Et donc il est revenu dans sa tribu. Et il a dit, Zullat Quraysh. Les Quraysh sont humiliés. Ils sont humiliés par les Banu Bakr. Et donc ils sont partis voir. Il a réuni des tribus, les Bani al-Mustaliq. Il a réuni les Bani Haoun ibn Khuzaïma, il a réuni le restant des Bani Kinana qui n'étaient pas du côté de Khuza'a. Il les a tous réunis et il est parti voir les Quraysh et il leur a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Les Quraysh vont dire, nous on n'a pas le temps de s'occuper de la guerre et à chaque fois on est attaqué. Nous on est des gens qui nous occupons du commerce, et si on s'occupe de la guerre, à s'entraîner, à faire attention, à faire des plans, notre commerce, il va être gaspillé. Donc ce qu'on aimerait, c'est avoir des gens sur qui on peut compter en cas de guerre. Et ces gens-là, ils vont dire, eh bien nous, on veut bien faire un pacte avec vous pour nous engager, donner notre engagement, qu'à chaque fois vous ferez appel à nous, comme une milice, dès que vous avez besoin de nous pour les attaques, on est là. Et nous, on fera en sorte de toujours nous entraîner. Et en échange, évidemment, comme nous, on ne s'occupera plus du commerce, c'est vous qui allez vous occuper du commerce, c'est moyennant argent, yani. Vous louez nos services. Et ils vont aller auprès du mont, de la montagne Hubeish, et ils vont faire ce serment, dans lequel ils vont dire, donc tous ceux qu'on a, tous ces tribus qui se sont réunies pour donner leurs promesses et leur engagement qu'ils vont défendre avec les armes, les Quraysh, ils vont dire inna layadun tahuddul hadda wa tahqinud dama. Inna layadun tahuddul hadda wa tahqinud dama. Nous sommes une main de fer qui frappe ce qu'il faut frapper et qui empêche le sang de couler. Ils ont dit cette phrase en guise d'engagement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand il faudra être dur, on sera là. Et quand il faudra venir raisonner pour éviter que le sang ne coule, on sera là aussi. On s'engage à faire les deux. Si vous avez besoin de nous pour attaquer, on attaquera. Si vous avez besoin de nous pour la réconciliation, pour la paix, on le fera. Et depuis, de père en fils, les Ahabish, ils ont ce pacte qui les lie au Quraysh. À la bataille de Badr, les idolâtres étaient persuadés qu'ils n'allaient faire qu'une bouchée des musulmans, donc ils n'ont pas fait appel aux Ahabish. Et cette fois, pour Uhud, ils font appel aux Ahabish. Il faut appel aux Ahabish. Donc imaginez-vous l'effet que ça fait sur le professeur Hassan lorsqu'il voit dans la lettre que deux tiers de ceux qui composent l'armée, ce ne sont pas des gens de la Mecque, des gens des alentours, les Bani Kinana, les Bani Mustaliq, les Bani Al-Houn, etc., etc. Et je vais revenir sur l'effet que ça fait sur le professeur Hassan. Pour bien comprendre qui sont les Ahabish, ce sont des gens très respectés et très craint, à un tel point que, bon, ils ont été utilisés à Uhud. Et à Uhud, le compagnon du professeur Hassan, on le verra en détail plus tard, mais juste pour que vous ayez une idée, lorsqu'ils vont voir devant eux ces 3000 combattants, et parmi eux, 2000 Ahabish, armés jusqu'aux dents, et que la poignée de musulmans, parce qu'ils sont trois fois moins, et même moins que trois fois moins, ils vont se retrouver au milieu de cette marée d'hommes, et en particulier de ces Ahabish. Eh bien, Ka'b ibn Malik, il a fait un long poème sur Uhud, et quand il cite les Ahabish, il dit « Faji'na ila mawjin min al-bahri. Faji'na ila mawjin min al-bahri wastahu Ahabishu minhum hasiru wa muqanna'u. ثلاثة آلاف ونحن نصية ثلاثمئين إن كثرنا أو أربعون ثلاثمئين إن كثرنا وأربعون Qu'est-ce que ça veut dire ces deux rimes, ces deux vers? فَجِئْنَا إِلَى مَوْجٍ مِنَ الْبَحْرِ وَسْطَهُ. Et nous sommes venus, nous sommes introduits dans un océan, dans une vague appartenant à un océan. Il parle de la vague de cette armée qui vient comme une vague, il la compare à une vague. وَسْطَهُ. Et au milieu de cette vague, de cet océan, il y avait quoi? أَحَابِيشٌ. Des أَحَابِيشٌ. منهم حاسروا ومن ومقنعوا. Parmi eux, il y en avait qui étaient sans aucune arme, sans bouclier, mais ils étaient là pour combattre malgré tout. ومقنعوا. Et d'autres armés jusqu'aux dents, avec les casques, avec les boucliers. ثلاثة آلاف ونحن نصية. 3000 ils étaient, et nous étions un petit résidu. Nous étions quelques-uns face à ces 3000. C'était l'impression qu'il avait. Il y en a, ils étaient 700. Face à 3000. Et justement, c'est ce qu'il dit pour dire le nombre 700. Il dit وَنَحْنُ نَصِيَّتُونَ. Et nous étions que quelques-uns. ثَلَاثُ مِئِينَ إِنْ كَثُرْنَا وَأَرْبَعُ. Au grand maximum, on était 300 et 4. On est 300, c'est 300. Plus 400, ça fait combien? 700. 300 plus 400, ça fait 700. Donc il dit, vous allez me dire, mais pourquoi il le dit comme ça? Pourquoi il ne peut pas dire directement 700? L'Anna est en train de faire un poème, il doit respecter des règles dans le poème, le nombre de syllabes et tout. Donc le mot, il ramène le sens, mais quelquefois il est obligé de trouver des drôles de mots par-ci, par-là. Le mot, le sens, il est là, même s'il doit aller chercher loin pour respecter les règles de la poésie. Non. Et donc ça montre, Yannick, que ces gens-là sont terrifiants, l'Ahabish. Ils sont terrifiants, ils sont craints. Ils sont respectés à un tel point que même pendant la bataille de l'Khandaq, l'Ahzab, qu'on verra plus tard, lorsque les Quraysh vont venir assiéger la ville de Médine, et que les musulmans vont creuser des fossés, des grandes tranchées, pour les empêcher d'attaquer la ville de Médine, ils vont voir arriver, débarquer sur Médine, une armée de 10 000 hommes, dont une grande partie sera composée par les Ahabish. Le Coran lui-même il parle de cet événement dans sourate Al-Ahzab. Allah Azza wa Jalla dit dans sourate Al-Ahzab en parlant de ça: "If ja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idh zaghat al-absar wa balaghat al-qulub al-hanajir wa tadhunnuna billahi adh-dhununa." Ajib. Allah Azza wa Jalla parle des sentiments qu'ont ressenti les compagnons au moment où ils ont vu ces 10 000 arriver avec les Ahabish surtout. Hein? Il dit lorsqu'ils sont venus au-dessus de vous et par-dessous. Ils sont venus par au-dessus et par en-dessous. Pourtant, ils sont venus qu'en face. Hein? Mais ils avaient cette impression qu'ils étaient envahis par au-dessus et par en-dessous tellement ils étaient nombreux et qu'ils criaient à la vengeance. Et lorsqu'ils sont venus par au-dessus et par en-dessous de vous, et que vos yeux ont dévié. C'est-à-dire qu'on lisait dans leurs yeux la crainte, la terreur. On voyait dans leur visage la crainte. Quelqu'un il peut ressentir la peur, mais il sait qu'à ce moment-là, il ne doit pas le montrer. Tu me fais pas peur, hein? Et pourtant, à l'intérieur de lui, il n'y a plus rien. Il a tout lâché. Mais à l'extérieur, tu vas voir, tu crois que tu me fais peur? Mais là, même les yeux, les traits du visage montraient la peur, la crainte. وَزَارَتِ الْأَبْصَارِ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ. Et que vos cœurs sont arrivés au hanajir, à la gorge. Tellement ils avaient peur, les cœurs battaient, à un tel point qu'on avait l'impression que les cœurs, ils allaient sortir de la poitrine, par la gorge. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرِ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Et Allah Azza wa Jalla dit aux compagnons, et vous avez même, pour certains d'entre vous, eu de mauvaises pensées à propos d'Allah. Et le shaitan est venu, il a commencé à mettre le waswas. Est-ce que vraiment Allah il va vous aider? Regarde tout ça. Comment vous allez vous en sortir? D'ailleurs, juste après, Allah Azza wa Jalla dit que les munafiqun wal ladhina fi qulubihim marad, les hypocrites et ceux qui avaient une maladie dans le cœur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Le prophète, Allah et son messager, ils ne nous ont promis que des choses, qu'illusions ils nous ont promis. Ils nous avaient promis la victoire. Regarde maintenant, on est envahi par 10 000 hommes, ils nous ont assiégés, on va aller où? Et pourtant, ils vont gagner la bataille de Khandaq, contre toute attente. Alors que voilà comment elle commence la bataille. Comment ils vont la gagner, ça on verra plus tard quand on arrivera à cet épisode. Mais l'Ahabish, pourquoi je donne cet exemple? Pour vous dire que l'Ahabish ont participé à cette bataille. Non. L'Ahabish était aussi respecté. Par exemple, on a, parmi les événements qu'on avait déjà cités, vous vous rappelez lorsqu'on avait dit qu'Abu Bakr Siddiq, radiyallahu anhu, lorsqu'il n'en pouvait plus des persécutions, il avait pris la décision de faire la hijra vers l'Abyssinie. Quand le professeur Hassan et les musulmans vivaient encore à la Mecque, il y avait des musulmans qui étaient partis à l'Abyssinie. Et donc Abu Bakr Siddiq a voulu les rejoindre parce qu'il n'en pouvait plus des persécutions. Et sur le chemin, il a croisé qui? Un homme qui appartient aux Ahabish, un chef des Ahabish. Il s'appelle Ibn Dourna. Et c'était un idolâtre qui appartenait aux Ahabish. Il lui a dit, tu vas où? Vous connaissez Abu Bakr? Il lui a dit, tu vas où? Il lui a dit, moi c'est bon. J'en peux plus des persécutions, je veux vivre ma religion librement. Donc je vais en Abyssinie rejoindre mes frères qui sont déjà là-bas pour pouvoir vivre ma religion librement. Ibn Dourna. Il a dit, honte à nous si nous ne sommes pas capables de garder les nôtres parmi nous juste pour un désaccord dans les convictions et dans la croyance. Retourne à la Mecque, c'est moi qui te donne la protection. Et quand il est entré à la Mecque, Ibn Dourna, il a dit, j'ai donné ma protection au fils d'Abu Quhafa. C'est comme ça qu'il était appelé Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, parce que son père s'appelait Abu Quhafa. J'ai donné ma protection au fils d'Abu Quhafa. Que personne, فَلَا يَعْرِضَنَّ لَهُ أَحَدٌ إِلَّا بِخَيْرٍ, que personne ne fasse quoi que ce soit, si ce n'est le bien. Ikhlas, les pressions et les persécutions sur Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu ont cessé parce qu'il était respecté. On devait respecter la protection que ce notable de Ahabish avait donnée. Naam. On verra aussi à Sulh al-Hudaybiyah, le pacte de l'Hudaybiyah, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il est en période de guerre, sans merci avec les Quraysh, il va faire un rêve. Ce rêve, c'est une révélation qui lui dit, va à la Mecque pour faire l'Umrah. Vous imaginez les épreuves que les prophètes ont vécues. On a parlé tout à l'heure d'Ibrahim qui a abandonné sa femme et son nourrisson plein milieu du désert. Ici, c'est quoi? Allah Azza wa Jal, il dit au prophète, va faire l'Umrah. Elle ne va pas te battre, mais va faire l'Umrah chez qui? Chez des gens qui lui interdisent d'avoir accès au lieu saint, de venir faire la Umrah, et qui n'attendent que ça, de les voir arriver sans armes pour les décimer. Le professeur s'est mis parti, sans armes. Et les musulmans l'ont suivi, subhanallah. Et les Quraysh, malgré tout, se sont retrouvés dans une situation compliquée. Pourquoi? Parce que parmi eux, il y avait ceux qui disaient, mais c'est une bonne occasion, qu'ils viennent, on les attend. On va tous les éliminer, on sera tranquille. Il n'y aura plus de problème, ce qu'ils appelaient le problème islam n'existera plus. Mais d'autres disaient, plus raisonnés, ils disaient, mais ce n'est pas possible. On peut les éliminer s'ils sont d'accord pour se battre avec nous. On ne va pas tuer des gens désarmés qui sont venus en paix et qui viennent pour faire le pèlerinage. Aucune tribu arabe n'acceptera quand ils vont entendre que nous, les gens de Mecca, les gens qui nous occupons de Mecca, on a osé faire ça. Plus aucun pèlerin parmi toutes les tribus arabes n'osera venir faire leur pèlerinage ou nous faire confiance. On ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire couler le sang dans le lieu saint et en plus sans que les autres nous attaquent. Et ils ont dit, bon, on va faire quoi? On va les convaincre de nous attaquer. S'il te plaît, viens te battre avec nous, c'est pas possible. Ils vont faire appel aux Ahabish. Et les Ahabish vont venir. Et comme ils ont déjà vécu plusieurs événements avec les Quraysh contre les musulmans, ils ont une certaine haine, une certaine rancœur contre les musulmans. Et un des notables des Ahabish va partir rendre visite au camp, à l'endroit où campent les musulmans en attendant de trouver une solution pour rentrer à la Mecque. Puisque jusqu'à nouvel ordre, ça leur est interdit et ils essayent de trouver une solution. Ce notable parmi les Ahabish va venir. Le professeur Hassan, on va l'informer, on va dire il y a un notable des Ahabish qui vient pour négocier quelque chose avec nous. Négocier quoi? On ne sait pas. Le professeur Hassan va dire les Ahabish sont des gens respectés. C'est non seulement des gens respectés par les autres, et écoutez, mais c'est aussi des gens qui respectent la Kaaba et les lieux saints plus que les Quraysh. Les Quraysh, ils ont fait leur commerce. Et les Ahabiches, ils ont donné un pacte pour défendre à travers les armes les Quraysh. Ce n'est pas pour les beaux yeux des Quraysh. C'est parce qu'ils veulent que la Kaaba, qui est sainte pour eux, ces lieux saints, soient respectés jusqu'au bout. Donc, le prophète Hassan leur dit, c'est des gens qui respectent les lieux saints. Alors, mettez devant eux tous les troupeaux, tout le troupeau de chameaux et qu'on a ramené avec nous, en guise d'offrande. Il y en a quand on fait le pèlerinage, on sacrifie, chaque pèlerin sacrifie une bête et l'offre à nourrir aux pauvres de Mecca. Ça fait aussi partie des rites du pèlerinage pour les musulmans. Et donc, comme il y avait beaucoup de pèlerins, il y en avait plein des chameaux. Il dit, mettez en face de lui au moment où il arrive, faites pavaner devant lui ce troupeau pour qu'il voit. Parce que lui, ça va lui parler, ça. Le stratège qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque cet homme va arriver et qu'il va voir tous ces chameaux, il va dire, en ce qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous rentrez à la Mecque tant que vous y venez pour faire votre pèlerinage et qu'ensuite vous repartez chez vous. Et il retourne chez les Quraysh et il leur dit, vous vous débrouillez, vous trouvez une solution. Parce qu'en ce qui nous concerne, nous les Ahabish, on ne prendra pas une part à une guerre qui ne nous concerne pas. Nous avons donné notre engagement de prendre les armes pour vous défendre, mais défendre ce lieu saint. Et pour éviter, vous vous rappelez ce qu'ils avaient dit, Inna la yadun tahuddul hadda wa tahqinud dama. Nous frappons quand il faut frapper et nous évitons de faire couler les sangs. Et nous avons donné notre engagement quand il est plus raisonné de faire la réconciliation de l'affaire. Ici, ce sont des gens, on a vu, qui sont venus avec leurs richesses, leurs biens, leur bétail pour les donner aux pauvres. Ils ne sont pas dans un esprit guerrier. On ne peut pas tuer ces gens-là. Et donc là, les Quraysh vont dire, même les Ahabish ne sont pas avec nous. Et c'est là où ils vont envoyer Suhayl ibn Amr, radiyallahu anhu, puisque plus tard il se convertira à l'islam. Et ça va donner lieu au pacte de l'Hudaybiyah entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les Quraysh. Mais pourquoi j'ai rappelé ça? C'est un événement qu'on verra plus tard parce qu'on n'y est pas encore arrivé. C'est pour parler du rôle aussi des Ahabish. Ils étaient à la fois craints, ils inspiraient terreur, mais en même temps, ils étaient très écoutés et respectés. Et donc, le prophète, dans la lettre qu'il reçoit de l'Abbas ibn Abdel Muttalib, il reçoit cette lettre à Quba, parce qu'il la reçoit un samedi, tous les samedis, il avait l'habitude d'aller à Quba. Il reçoit cette lettre, il appelle son compagnon Ubay ibn Ka'b, il lui dit, lis-moi cette lettre, et n'en parle à personne. Il lui dit, voilà ce que l'Abbas ibn Abdel Muttalib te dit. Et voilà de quoi il t'informe. Sans aucun doute, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dû être heurté par les informations qu'il avait. Et sans doute, il s'est dit, il n'y a pas une minute à perdre. Et donc, la première chose qu'il fait, c'est qu'il dit à Ubay ibn Ka'b, « Uktum hadha, garde ça secret. N'en parle à personne. » Et ensuite, il dit, « Nous quittons Quba, nous rentrons à Médine. » Et fais rassembler les personnes importantes parmi les Muhajiroun et l'Ansar, parmi les compagnons qui ont fait la hijra de Mecca jusqu'à le Madina, et parmi les compagnons de le Madina, les Médinois, fais réunir les personnes les plus importantes. Le prophète Hassan les a fait réunir et il les a informés de ce qu'il y avait dans cette lettre, tout en leur disant il y a 2000 Ahabish parmi eux. Et ils savent, surtout les musulmans de la Mecque, savent de qui il s'agit. Et il leur dit, ça fait 3 jours que cette lettre est partie, elle est partie en même temps que l'armée est sortie. Donc où est cette armée exactement, on ne sait pas, elle est peut-être proche de Médine, elle est peut-être encore loin, mais en tout cas, ils viennent pour raser la ville de Médine. Que doit-on faire? Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il va leur demander que doit-on faire, il va les consulter, il va aussi les informer d'un rêve qu'il a fait et qu'il comprend. Il avait fait un rêve et que maintenant, avec cet événement, il comprend que ce rêve, il a un rapport avec cet événement. Donc, il leur raconte ce rêve et il leur explique comment lui, il interprète ce rêve. Quel est ce rêve? Comment vont réagir les compagnons? Ça, c'est ce que nous verrons, bi'idhnillah, la fois prochaine. Barakallahu fikoum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu ilayk.